12h30 à Paris, une heure de moins en temps universel.
RFI Midi, Clotilde Dumais.
Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez pendant 2 heures, on va faire le tour de l'actualité tous ensemble à travers le monde avec d'abord un point sur la discussion entre Washington, Moscou et Kiev. Le Kremlin évoque un dialogue très utile avec les Américains, mais très peu d'annonces n'ont été faites concernant pour l'instant une éventuelle trêve en Ukraine. Quel avenir pour la mobilisation en Turquie alors que les rassemblements sont interdits dans les 3 plus grosses villes du pays? L'opposition veut maintenir la pression après l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu.
Nous sommes dirigés par un dictateur et il ne veut toujours pas s'en aller. C'est contre ça que nous protestons et ils essaient même de nous confisquer le droit de manifester. Hier, ils nous ont dit que la manifestation était illégale. Ils m'ont tabassé avec une matraque, ils m'ont gazé avec des lacrymogènes et ils ont utilisé des balles en plastique. Et ils ont pris plaisir à faire tout ça.
On y reviendra dans quelques minutes et dans nos journaux. La grosse boulette de l'administration Trump, un journaliste américain invité par erreur sur une messagerie dans un groupe avec les responsables de la sécurité nationale qui discutait de la préparation de frappes contre les rebelles houthis au Yémen. Erreur invraisemblable qui fait beaucoup parler aux États-Unis. Alors quelles conséquences éventuelles sur le plan politique et sécuritaire? Comment expliquer cette fuite? On en discutera avec Laurie Kenton, spécialiste de l'histoire et de la politique américaine. Ce sera vers 12h15 en temps universel. Reportage à suivre aussi en Syrie, où des dizaines d'usines de production de captagon ont été découvertes depuis la chute de Bachar al-Assad. L'ancien régime avait fait de la vente de cette amphétamine l'une de ses principales sources de revenus.
Le Hezbollah avait l'habitude de donner à ses soldats une certaine quantité de captagon dans un petit sac. Le mot d'ordre était « consommer, puis combattre ». Les pilules qui n'étaient pas consommées étaient conservées puis revendues ici, dans le quartier.
Un reportage à écouter dans une heure environ. Juste après, ce sera Afrique Midi. Au Sénégal, notamment, où le Fonds monétaire international confirme qu'une dette d'environ 7 milliards de dollars a été cachée par l'administration de Macky Sall. Et puis l'actualité sur le continent américain, à partir de 13h temps universel. On parlera entre autres de la chute de popularité du président Lula, alors que son prédécesseur Jair Bolsonaro risque lui un procès pour un projet présumé de coup d'État. Voilà pour le programme.
RFI. L'Europe à midi.
Aucun compte-rendu ne sera communiqué. C'est ce qu'indique le Kremlin, en tout cas après de nouvelles discussions avec les Américains sur une éventuelle trêve en Ukraine. La Russie dit analyser le résultat de ces discussions et indique à l'instant vouloir un accord sur la mer Noire pour lever les restrictions sur les exports agricoles russes. En attendant d'avoir davantage de précisions, eh bien aucune date n'a été annoncée, fixée pour la suite des échanges. Et de toute façon, à Kiev, Emmanuel Chaz, on observe tout cela avec beaucoup de réserve.
Nous sommes à Loukianivka, dans le centre de Kiev. Le quartier est régulièrement bombardé par les Russes, mais en ce début de semaine, les gens se pressent pour rentrer du travail. Ici, les discussions de Riyad semblent loin des préoccupations quotidiennes. Sacha, un retraité, ne veut pas entendre parler de négociations, il est catégorique.
Avec Trump, rien ne fonctionnera.
Ruslana, fonctionnaire, est elle aussi sceptique quant à d'éventuelles avancées.
Un jour ou l'autre, un consensus sera trouvé. Mais la seule chose que l'Ukraine doit négocier, c'est une paix à ses propres conditions. Après 3 ans de guerre, nous ne pouvons pas céder. Mon fils s'est porté volontaire pour aller à la guerre dès le premier jour. Donc pour moi, ce qui est sûr, c'est que nous ne voulons pas être des esclaves. Si tout s'arrête aujourd'hui, la guerre sera suspendue et reprendra à nouveau.
Le pragmatisme de Ruslana est celui de millions d'Ukrainiens. En plus de la ligne de front, la guerre se traduit sur l'ensemble du territoire par le risque constant de frappes de missiles ou de drones, qui rappelle que Moscou n'a pas ralenti la cadence de son agression contre l'Ukraine. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Les Ukrainiens qui ont de nouveau échangé avec Washington en Arabie Saoudite après les pourparlers russo-américains. Le président Volodymyr Zelensky doit être reçu demain soir à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron. On va évidemment revenir sur toutes ces négociations dans nos prochains journaux. Ce mardi 25 mars, pendant ce temps, c'est la journée de la liberté pour l'opposition biélorusse. Journée qui rappelle la proclamation en 1918 de l'indépendance de la Biélorussie, même si elle n'a duré que quelques mois. C'est donc le jour choisi par l'opposition en exil pour rappeler la situation dans le pays, toujours aux mains d'Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis plus de 30 ans et qui est justement investi, lui, pour un 7e mandat aujourd'hui. Dans ce contexte, Svetlana Tikhanovskaya, la principale opposante au pouvoir qui a trouvé refuge en Lituanie, s'est adressée au Parlement lituanien. Correspondance à Vilnius de Marielle Vituro.
La journée a commencé par le lever du drapeau de l'opposition biélorusse, trois bandes horizontales blanc, rouge, blanc devant le Parlement lituanien. Depuis 5 ans, l'opposition se bat toujours pour donner un avenir européen à la Biélorussie. Mais la donne a changé. La Lituanie compte près de 60 000 Biélorusses sur son territoire, étant à se fermer pour des raisons de sécurité, en limitant de plus en plus la délivrance de permis de résidence. Svetlana Tikhanovskaya appelle à plus d'ouverture.
La frontière lituanienne est celle qui connecte ceux qui sont encore dans la prison tenue par Loukachenko avec le monde libre. Je vous demande de ne pas construire un nouveau rideau de fer.
L'arrêt de Radio Liberté, financé par les Américains, est aussi un coup dur pour les Biélorusses.
Les médias libres sont un lien entre la vérité, les Biélorusses en exil et ceux restés dans le pays. Chaque jour, plus de 3 millions d'adultes en Biélorussie les consultent. C'est énorme.
La récente libération de prisonniers américains en Biélorussie alimente les craintes d'un accord entre Donald Trump et Alexandre Loukachenko pour la suspension des sanctions. Svetlana Tikhanovskaya affirme que rien n'est en cours, mais des députés lituaniens la mettent en garde. Jouer avec les dictateurs finit toujours mal. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
L'interdiction de rassemblement à Ankara est prolongée jusqu'au 1er avril. Cette interdiction concerne depuis une semaine les deux autres plus grandes villes turques, Istanbul et Izmir. Décision prise face au mouvement de protestation contre l'incarcération des Kerem İmamoğlu, le candidat de l'opposition pour la présidentielle de 2028, accusé de corruption. Malgré ces interdictions, les manifestations continuent et le chef de l'opposition, Özgür Özel, appelle aussi à boycotter des marques détenues par des entreprises considérées proches du pouvoir, des propriétaires de grands médias qui ont censuré les images de ces mobilisations. Les précisions de l'envoyé spécial de RFI à Istanbul, Céline Pirmaniani.
Erdogan, démission, c'est le slogan que répètent à l'envi des dizaines de milliers de manifestants rassemblés dans le quartier de Fatih, sur la place de la grande municipalité d'Istanbul. Özgür Özel, le chef de l'opposition, apparaît à la tribune, un rendez-vous quotidien avec la foule qui est en train de devenir un rituel depuis l'arrestation du maire d'Istanbul le 19 mars. Aujourd'hui, il a promis de lancer un boycott contre les marques impliquées dans la censure médiatique des mobilisations.
J'aime toutes les sortes de cafés, je ne saurais que vous le conseiller. Buvez le type de café que vous aimez, mais surtout, ne buvez pas le café d'espresso lave. Nous n'irons plus dans les espresso lave, nous ne boirons plus son café.
En face, le pouvoir perd patience et les méthodes de dissuasion se multiplient. Lundi 24 mars, 8 photojournalistes ont été arrêtés lors de perquisitions à leur domicile pour avoir couvert les manifestations. Céline Pirmaniani, Istanbul, RFI.
Istanbul, où il est 14h38.
RFI, l'Europe à midi.
La presse européenne en parlait déjà hier. Ce déplacement controversé au Groenland de l'épouse du vice-président américain, Usha Vance, qui est attendue sur place dès jeudi, sans invitation officielle. Elle doit se rendre dans ce territoire autonome danois que Donald Trump veut annexer. Et elle sera notamment accompagnée du conseiller à la sécurité nationale du président américain et du ministre de l'énergie. Bonjour Otilia Ferret.
Bonjour.
Correspondante de RFI dans la région. Alors du côté du Groenland, comment est-ce qu'on réagit ?
Alors évidemment, cette annonce, elle a semé le trouble. La deuxième dame des États-Unis s'est en quelque sorte, enfin complètement à vrai dire, invitée au Groenland. Mutegede, le premier ministre de l'île arctique, estime que cette visite est, je cite, « très agressive, pas du tout innocente et constitue une ingérence étrangère et une démonstration de force ». Ça fait en effet des mois, en réalité des années, qu'il observe Donald Trump lorgner sur son territoire et on peut comprendre qu'il ne soit pas franchement emballé par cette visite surprise. Il a précisé qu'il n'y aura aucune rencontre. On rappelle aussi que Donald Trump a menacé une nouvelle fois, pas plus tard que le 4 mars dernier, de s'emparer de l'île d'une manière ou d'une autre, et ce, pour la sécurité internationale.
Et j'ajoute aussi cette déclaration de la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui dénonce aujourd'hui une pression inacceptable de la part des États-Unis. Alors qu'est-ce qu'Usha Vance vient faire au Groenland, Otilia ?
du tourisme, à en croire la Maison Blanche, et pour célébrer la culture et l'unité groenlandaise, c'est ce qu'ajoute l'administration Trump. Moment fort du séjour, la course nationale de chiens de traîneau du Groenland, où Chavan serait visiblement une grande passionnée. Outre cette compétition, il est prévu qu'elle visite de jeudi à samedi des sites historiques et qu'elle apprenne l'héritage groenlandais. Elle sera accompagnée de son fils et d'une délégation américaine.
Sauf que cette visite, on l'a compris bien, elle n'est pas du tout anodine.
Pas du tout, c'est d'ailleurs ce qu'a dit le premier ministre groenlandais lui-même. Surtout que pendant que la deuxième dame des États-Unis fait du chien de traîneau, Mike Waltz, le conseiller américain à la sécurité nationale, et Chris Wright, le secrétaire américain à l'énergie, se rendront sur une base militaire américaine dans le nord du Groenland. Difficile donc de parler de coïncidence, surtout à un moment critique pour le Groenland, territoire autonome danois, qui est en pleine négociation en vue de former une coalition gouvernementale. En effet, après la défaite de Mutegede aux élections législatives, le nouveau premier ministre sera probablement Jens Frederik Nielsen. Lui non plus, comme 85% des Groenlandais, n'a aucune intention de devenir américain. Ses visites impromptues, y compris celle de Donald Trump Jr. en janvier dernier, tendent encore un peu plus la situation, et pour le chef de la diplomatie danoise, ça montre, entre guillemets, un appétit inapproprié des Américains.
Les précisions d'Otilia Ferret, correspondante de RFI dans la région. Il est 12h41 à Paris. On jette un coup d'œil aux médias européens qui ont donc évoqué effectivement cette visite impromptue au Groenland, mais qui reviennent ce matin assez largement sur cet article publié aux États-Unis par le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, qui raconte comment les responsables de la sécurité nationale américaine l'ont invité sur la messagerie cryptée Signal dans un groupe de discussion qui préparait des frappes militaires contre les Houthis au Yémen. Comment quelqu'un a-t-il pu être assez imprudent pour penser qu'il était approprié d'aborder ces questions sur un réseau social commercial? C'est la question posée par El País, alors que Der Spiegel se moque d'une frappe aérienne planifiée comme une fête d'adolescents. Un ancien responsable de l'administration Obama, cité cette fois-ci par The Independent, se dit choqué et consterné par la stupidité collective des dirigeants de la sécurité nationale de Donald Trump. Et il se demande même si d'autres groupes de discussion similaires existent pour d'autres dossiers sensibles. On y reviendra, je vous le disais, avec notre invité Loric Henton dans environ une demi-heure. Et puis un mot de l'actualité en Allemagne avec les 630 députés qui se réunissent aujourd'hui pour la première fois depuis les législatives anticipées. Un nouveau Bundestag plus petit, plus à droite, plus masculin et un peu plus jeune qu'avant, résume Der Spiegel. Et avec des Verts qui se positionnent désormais dans l'opposition et qui veulent, selon le Süddeutsche Zeitung, se montrer plus agressifs. Ils ont d'ailleurs déjà fait pression sur la nouvelle présidente du Bundestag, Julia Klöckner, qui envisageait de se présenter à l'ensemble des groupes parlementaires, y compris à celui de l'AFD à l'extrême droite. Rendez-vous finalement annulé. Une pression des Verts dénoncée dans un éditorial publié par Die Welt. L'AFD a été élu et ses membres sont des représentants du peuple allemand. Ils doivent être traités comme tels par la deuxième plus haute autorité de la République. C'est ce qu'écrit la journaliste de Die Welt. Le fait qu'il y ait parfois de bonnes raisons de s'étonner du comportement des membres de l'AFD ne contredit pas cela.
RFI, l'Europe à midi.
Le Portugal, lui, fait face au vieillissement de la population. En 2022, la moitié des un peu plus de 10 millions de Portugais avaient plus de 46 ans. Alors les travailleurs partent de plus en plus tard à la retraite, à 66 ans et 7 mois cette année, en raison d'un coefficient dit de durabilité, calculé sur l'espérance de vie. Pour l'instant, le système de sécurité sociale tient, mais beaucoup de personnes âgées à la retraite continuent de travailler pour des raisons économiques. Reportage de Marie-Lyne Darcy.
La retraite au Portugal évolue en fonction de l'espérance de vie. Elle augmente, alors on travaille plus longtemps. Lourdes, 69 ans aujourd'hui, est partie il y a 4 ans à l'âge légal en vigueur en 2021.
C'est tard pour prendre la retraite. On pense profiter un peu de la vie, mais ça passe si vite et on n'a plus le temps pour rien. Moi, je me contente de prendre l'argent à la fin du mois, un peu plus de 400 euros seulement, car j'ai travaillé longtemps sans cotiser. Les patrons ne s'acquittaient pas des contributions dans ma jeunesse. On pense que c'est bon, car tant qu'on travaille, ça fait plus à la fin du mois, sans les réductions. Mais à la retraite, ça pèse pas lourd.
Lourdes, qui était employée de bureau, reconnaît s'être accommodée de la situation comme de nombreux autres Portugais.
J'ai laissé faire. C'est notre faute, nous avons accepté le système. Aujourd'hui, je travaille toujours, je fais des petits boulots, ce qui me fait un complément de retraite. Je suis propriétaire et je perçois la pension de réversion de mon mari décédé, de 400 euros aussi. Je travaille car je ne veux pas dépendre de ma fille qui pourrait m'aider. Mais tant que je pourrai, je m'en sortirai seule. Et après, on verra.
Il y a 5 ans, le salaire minimum était de 450 euros mensuels. Aujourd'hui, il a été fortement réévalué à 850 euros. Autant dire que pour les plus âgés, se dispenser les retenues sociales était la seule manière de boucler les fins de mois. Alexandrine, fringante retraitée de 77 ans.
Aujourd'hui, je penserais davantage à moi, mais j'avais des enfants en bas âge et des parents, une vie à vivre. L'argent était suffisant pour m'en sortir et acheter ce qu'il fallait pour moi ou mes filles. J'ai cotisé le minimum légal.
Les 600 euros mensuels que perçoit Alexandrine, complétés par des rendements de placement, ne lui permettent pas de payer une maison de retraite à sa mère âgée de 100 ans et toujours à sa charge. Aujourd'hui, le montant de la retraite reste encore à la peine. Avec 563 euros de pension moyenne sur 14 mois, le Portugal se place dans le peloton de queue en Europe. Les conditions sont souvent difficiles pour les retraités. Le système du coefficient de durabilité, qui n'est pas socialement remis en cause, ne pourra pas prolonger éternellement l'âge de départ à la retraite. Il faudra calculer autrement selon l'historienne et analyste Raquel Varela.
C'est une erreur. L'idée de départ repose sur l'augmentation de l'espérance de vie réelle et la durée de cotisation. Mais ce qui se passe, c'est que la sécurité sociale est en permanence excédentaire. Car malgré le vieillissement de la population, il y a un rajeunissement de la force de travail grâce à l'immigration. Et même sans ça, il faut prendre en compte le fort développement des technologies, l'automatisation et les bénéfices des entreprises. C'est ce qui devrait conforter la pérennité de la sécurité sociale.
Et puis la loi génère des biais, selon l'historienne. De nombreux employeurs préfèrent mettre leurs employés à la retraite bien avant l'âge légal.
On a mis en place le système du départ à la retraite anticipée, avec de lourdes pénalisations sur la pension. Les entreprises utilisent les travailleurs jusqu'à la limite, à gros renfort d'heures supplémentaires et de travail nocturne. Elles savent qu'ils seront usés avant l'âge, alors ils seront pris en charge par la sécurité sociale à 55 ou 60 ans, avec des retraites misérables.
Les jeunes et les moins jeunes retraités sans revenus décents se voient donc contraints de trouver une activité à temps partiel et des revenus supplémentaires. Avec 13% des pensionnés au travail après l'âge légal, nous ne sommes pas très loin de la moyenne européenne. Cependant, 40% de ceux qui travaillent encore le font par nécessité. C'est beaucoup, alors qu'en moyenne en Europe, 30% des retraités travaillent par choix et plaisir. Irène, 70 ans, occupe toujours des fonctions comme professeur.
L'argent manque toujours. Moi, j'ai 6 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Alors la grand-mère et arrière-grand-mère que je suis fait des cadeaux. Oui, c'est une question économique.
Certains secteurs, comme l'éducation, la santé, sont délaissés par les jeunes car ils sont peu attractifs. L'État encourage donc les seniors à continuer à travailler dans ces secteurs. De l'avis des analystes, tôt ou tard, et malgré le coefficient de durabilité, on arrivera à une rupture du système. Le gouvernement a d'ores et déjà prévu de créer des commissions pour analyser la situation.
Le reportage de Marilyn Darcy à retrouver dans Accent d'Europe, émission diffusée sur RFI du lundi au jeudi à 19h10, temps universel, ou bien écoutée en podcast sur le site internet et l'application Pure Radio. Un monde de tech avec Dominique Dezonnet. Bonjour Dominique.
Bonjour Clotilde.
La Chine a révélé qu'elle disposait désormais d'un robot capable de sectionner des câbles sous-marins. Selon le South China Morning Post, ce submersible compact peut couper des câbles, les câbles les plus solides, qu'il s'agisse de liaisons électriques ou de communications, jusqu'à 4000 mètres de profondeur.
Oui, nous pensons à tort que nos smartphones, ordinateurs et autres machines informatiques connectées sont reliées les uns aux autres en passant par des connexions satellitaires, des ondes hertziennes ou encore par du Wi-Fi, mais qu'elles soient du domaine grand public pour assurer les activités de n'importe quelle entreprise dans le monde. La quasi-totalité de nos communications électroniques dépendent à plus de 95% des câbles sous-marins. L'invasion de l'Ukraine par la Russie nous a d'ailleurs révélé l'importance stratégique que revêt les faisceaux optiques en mer Baltique avec la multiplication des tentatives de leur destruction qui serait imputable à Moscou.
Et pour l'instant, la suprématie opérationnelle dans cette guerre des câbles sous-marins, eh bien, est détenue par les États-Unis, la Russie et la Chine.
Effectivement, cette compétition est par ailleurs l'objet d'une véritable course technologique entre ces trois grandes puissances mondiales, et notamment dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées autour de Taïwan, qui est depuis des années revendiqué par la Chine. Le South China Morning Post, quotidien de Hong Kong, vient de révéler à ce titre que des ingénieurs du Centre chinois de recherche navale sont parvenus à concevoir un robot subaquatique capable de mettre hors service des câbles sous-marins. Ce submersible de petite taille est conçu en alliage de titane. Il ressemble, selon les schémas exposés dans le journal, à une scie circulaire qui a été fixée à un bras articulé. L'ensemble du dispositif résiste aux pressions des fonds marins jusqu'à 4000 mètres, soit une immersion qui est deux fois plus profonde que celle à laquelle sont habituellement ancrés les câbles maritimes. Mais son rayon d'action pourrait atteindre les 10 km de profondeur une fois accroché au bathyscaf de la marine chinoise. Le disque diamant de 15 cm de diamètre au bout du bras articulé de l'engin est capable de découper en tranches les épaisses gaines en acier, caoutchouc et polymère protégeant la majorité des câbles d'acheminement du courant électrique ou ceux véhiculant les flux de données numériques.
Et ce serait la première fois, hein, Dominique, qu'un pays affirme disposer d'un tel engin, en tout cas d'après le quotidien hongkongais.
Oui, on peut se demander pourquoi la Chine, d'habitude si discrète sur ses capacités militaires, a choisi de révéler publiquement détenir un tel dispositif de sabotage de câbles. Le quotidien de Hong Kong propose un début de réponse en rappelant que Pékin dispose de la flotte de submersibles la plus importante du monde. Avec une armada d'engins robotisés de ce type, la Chine pourrait opérer sans faire surface sur l'un des nœuds stratégiques d'interconnexion maritime qui est situé au large de l'île américaine de Guam, dans le Pacifique. Une région océanique dans laquelle se concentrent une douzaine de câbles sous-marins utilisés autant par les forces militaires des États-Unis que par des organismes privés comme Google ou encore Meta.
Dominique Dezonnet pour Un Monde de Tech. On la connaît notamment en France grâce au duo Brigitte. Eh bien, Aurélie Saada fait ses premiers pas au théâtre dans Personne d'autre de Botho Strauss. La chanteuse livre le monologue d'une amoureuse abandonnée par son compagnon, loin de son image solaire qu'elle incarne dans la musique. Aurélie Saada est au micro d'Elisabeth Le Quéré.
Toi, mon homme, tu prends aujourd'hui une autre femme.
Dans mes yeux, il y a.
Je n'enverrai jamais cette
laine,
jamais.
Aurélie Saada, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît comme auteur, compositrice, interprète. Qu'est-ce qui vous a conduit vers ce texte de Botho Strauss?
Moi, j'ai du mal à dire non quand on me propose une nouvelle chose. J'adore les aventures et voilà, et j'aime bien les voir ailleurs. Je dis souvent, je sais jamais si c'est le courage ou la peur qui me fait voir ailleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me pousse à l'aventure nouvelle. Je trouvais qu'il y avait une finesse, une complexité, une beauté dans ce texte, hein, incroyable, et je me suis dit, allez, je me lance, je vais essayer.
Ce texte, c'est le monologue d'une femme que son compagnon a quitté pour une femme, une jeune femme, une très jeune femme. Et c'est un texte qui est plein de rage, de douleur, de sarcasme, plein d'affects très différents. Est-ce que c'est ça qui vous a touché?
Moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu la complexité de sa situation. Elle l'aime encore, elle ne l'aime plus. Elle est détachée, elle est attachée. Elle est en colère, elle est triste, elle est amoureuse. Il y a quelque chose qui ressemble tellement à ce qu'on ressent dans la vie. Où va l'amour quand il s'en va? C'est pour ça que le petit texte à la fin que j'ai écrit commence par ça, parce qu'on est pétri de questions, en fait, quand une histoire se termine.
C'est un texte qui balance tout le temps.
Tout le temps.
Entre le présent, le passé, entre l'acceptation et la révolte.
Exactement. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce texte. Je trouve qu'il y a quelque chose de très juste. Je me suis demandé d'ailleurs si Botho Strauss avait été cette femme ou s'il avait reçu cette lettre.
Je m'étonne qu'il ait été soudain capable de faiblir dans sa conscience exemplaire et de se comporter comme un jouvenceau désinvolte qui doit se mettre auprès de moi à l'école du souvenir.
Aurélie Saada, ce texte, il a une dimension très contemporaine en fait, très universelle même.
Universel. Mais peut-être parce que les sentiments sont très justes et du coup il y a quelque chose d'universel. Moi, j'ai l'impression parfois, quand j'ai commencé à l'apprendre, je me suis dit, mais c'est incroyable, ces phrases à tiroir, mais Il a lu Lacan, c'est pas possible pour écrire des choses aussi compliquées.
Et vous chantez aussi beaucoup dans la pièce.
Eh oui, alors le metteur en scène m'a demandé de
étonnant.
Chanter, comme c'est amusant. C'est pas forcément ce qui est le plus facile du coup pour moi, parce que j'essaie de chanter pas comme une chanteuse, mais comme le personnage qui poursuit quelque chose, qui rapporte des souvenirs plutôt joyeux avec lui.
Est-ce que finalement ça parle d'amour, personne d'autre ?
Oui, ça parle d'amour, ça parle d'attachement. En écrivant cette lettre qu'elle n'enverra probablement jamais, elle fait de sa douleur quelque chose.
Qu'est-ce que ça fait d'être traversée par un texte aussi profond, aussi ambigu, aussi riche ? C'est une expérience très différente de la scène de la chanson.
Oui, alors déjà, les mots des autres, j'ai pas l'habitude de ça. Ce que je chante, c'est ce que j'écris, c'est mes histoires. Donc là, c'est vrai que apprivoiser les mots de quelqu'un d'autre, c'est une démarche particulière. On est dans le silence alors qu'on est dans le bruit, dans la musique. C'est vraiment très, très différent. Et puis, on est vraiment sur un fil. On est vraiment sur un fil. Peut-être un peu comme le jazz, d'ailleurs.
Ouais. Aurélie Saada, merci beaucoup.
Merci.
Aurélie Saada, interrogée par Elisabeth Lequéré pour cette pièce « Personne d'autre ». À découvrir donc au théâtre Marigny à Paris. Allez, il est presque midi en temps universel. Dans une grosse demi-heure, ce sera le retour de l'actualité africaine sur RFI. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumay.
Alors, avec à la une ce midi.
Une délégation du Fonds monétaire international en visite au Sénégal. Le FMI qui confirme les conclusions de la Cour des comptes sur l'ampleur de la dette cachée du temps de l'ancien président Macky Sall. Elle atteint cette dette 7 milliards de dollars. Les dirigeants des pays d'Afrique australe et de l'Est élargissent leur équipe de facilitation pour la paix dans l'Est du Congo. L'ancien président sud-africain Ralema Motlanthe et les anciennes présidentes centrafricaines Catherine Samba-Panza et éthiopienne Sally Work Zewde rejoignent Uhuru Kenyatta et Olusegun Obasanjo.
Et on en parlera donc à partir de 12h30, temps universel pour Afrique Midi. Pour le moment, un nouveau journal international arrive dans quelques minutes, mais d'abord un peu de musique. Tellement le titre de Thomas Sidibé dans la playlist de RFI. On arrive à Bamako, c'est nous. Bienvenue, ça y est, on est chez nous. Ibora, Ikasso, Isera, Ikasso, Jachikia depuis le berceau. Dans tous les quartiers, dans tous les ghettos, y'a mes coros. Dans tous les carrés, dans tous les balachons. Nyengo ya n'étouffé, ça peut m'étouffer, Kouma Kamisé, mais t'as les sons forts, emmène au mollo jusqu'à la mort.
Ça ressemble quand des chercheurs trouvent, à moi, grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Thank you.